Et merci de votre patience pour ce mini changement de plateau. Le plateau a un peu plus bougé depuis hier soir, n'est-ce pas, des deux cabales, qui a fait hier soir une performance ici même, on en dira un mot, puisque c'est autour de son livre dont on va parler. Trois invités autour de cette thématique qu'on dirait difficile, mais nécessaire. Trois invités auteurs et autrices de trois livres remarquables et marquants, différents dans leur approche, aussi bien par ce qu'ils racontent que par, dans chacun des cas, leur forme. Et donc ce sera d'autant plus intéressant dans le cadre de ce festival, qui est un festival qui interroge effectivement certains aspects documentaires, mais leur lien avec la littérature, est-ce que la littérature de création et le documentaire peuvent avoir à échanger ensemble et à s'apporter mutuellement. Donc je vous présente, bonjour à tous les trois, Juliette Drouard, vous êtes chercheur, auteur, thérapeute également, vous avez travaillé autour des dominations, et notamment des dominations de genre et de sexe, travaux autour de l'inceste, du vote des mineurs aussi, dont on aura peut-être le temps de parler. Il en est également question dans votre livre, puisque donc le vote des mineurs est bien une manière positive de prendre la parole, puisqu'il va être question de prise de parole dans notre échange, ne serait-ce que parce qu'au milieu, c'est Marika Mathieu qui est là. Vous êtes autrice, réalisatrice de documentaires et donc autrice j'allais dire fiction documentaire. Non, c'est pas une fiction documentaire. C'est un documentaire, mais un documentaire qui nous précise que par nécessité éthique et d'intelligibilité, il utilise de la fiction pour retracer cet ineffable. Quel est cet ineffable? Donc le livre s'appelle L'impuni, histoire d'un déni collectif, et il s'agit de l'affaire dont on va parler ces prochaines semaines, l'affaire Le Squarneck, dont vous résumerez mieux que moi, plus précisément notamment sur les chiffres, parce qu'ils sont tellement effarants qu'à chaque fois je me trompe, mais c'est la plus vaste et terrible affaire de pédocriminalité liée à un seul homme qui va passer en jugement cette année, qui impunément a sévi pendant des dizaines d'années dans le corps médical, mais aussi au sein de sa propre famille. Et ce procès arrive, mais ce que vous reconstituez, c'est l'affaire en elle-même, c'est tout l'itinéraire. L'impuni, histoire d'un déni collectif aux éditions Studio Fact. Juliette Drouard, j'ai oublié en vous présentant de dire qu'il y a une parution en littérature. Je vous ai présenté que comme chercheur, mais ce qui nous a fait vous inviter à Effraction, c'est d'emblée la parution de Cui-Cui aux éditions du Seuil, collection Fiction et Compagnie, qui est une collection de recherche de langue chez Fiction et Compagnie. Et c'est ce que fait Cui-Cui, tout en témoignant pleinement de ce dont on parlait, puisque le narratrice et protagoniste, celui-là est épicène, donc c'est moins compliqué, de ce roman, c'est une ado qui ne se pose pas elle-même question sur son genre, mais le genre est questionné, et qui semble, parce qu'on est dans cette indétermination-là tout du long du livre, avoir subi des violences dans le cadre intrafamilial, mais n'en est pas sûr, et ça c'est intéressant aussi, c'est-à-dire que c'est aussi un livre sur la conscience qu'on a soi-même du traumatisme, et quel rôle a la parole dans cette conscientisation. Le livre, là où il est formidable aussi, c'est qu'il invente une langue. Il invente sa langue pour faire parler Cui-Cui. Et cette langue est inventive et joyeuse et très vivante. Donc, ce qui permet de traverser et la violence et aussi quelques plus rares mais moments d'apaisement et de joie aussi, puisque la jeunesse est aussi joie. la joie, la douceur, ça a été un des moments de la fin de cette performance hier soir, ici même. C'est-à-dire qu'on a traversé avec vous, pour celles et ceux qui étaient là, une lecture musicale, échantillonné, rappé en direct, mais d'abord scandé, porté comme un discours, de ce livre qui sort aux éditions Le Diable Vauvert, qui s'appelle Ma honte, des Deux Cabales, est sous-titré Autobiographie d'un enfant violé, où les choses sont dites frontalement, c'est-à-dire vous avez subi des violences sexuelles à deux moments différents de votre enfance, et il vous a fallu un temps très long pour, si j'ose dire, vous en rendre compte, pour les conscientiser également. Alors que, et c'est ce que questionne aussi le livre, vous travaillez sur ces questions de façon aussi consciente que possible depuis la masculinité, depuis des années, aussi bien dans votre travail sur scène que musical, et vous avez fondé un collectif sur ces questions. Mais ce livre relate aussi bien la violence que le silence, en fait, qui a été le vôtre. Donc c'est une prise de parole, mais c'est aussi quelque chose de méta à cet endroit-là, une prise de parole sur la prise de parole ou sur la parole empêchée. Et un point commun, c'est que dans les trois cas, il est question de littérature, c'est-à-dire qu'il y a une mise en forme particulière pour parvenir à faire entendre aussi quelque chose qu'on n'entend pas, qu'on entend mal ou que la société ne parvient pas à entendre, dans des configurations très différentes. La première question que je voudrais vous poser, du coup, c'est de présenter mieux aussi ce que je viens de présenter de vos livres. C'était forcément bref, et peut-être en commençant par vous, dès ce que je viens de dire là, comment vous le compléteriez, qu'est-ce que vous avez envie de relater de ce qui est raconté dans Ma honte et de sa nécessité, c'est-à-dire de cette prise de parole-là. Qu'avez-vous subi et comment nous en parlez-vous ?
Vous avez 4 heures. Merci.
Oui.
Peut-être. Bon, merci pour l'introduction, elle était assez précise. Et en fait, déjà dire que j'ai le sentiment que si j'avais pas trouvé l'écriture plus jeune, je serais jamais entré en contact avec l'extérieur, le monde extérieur, avec l'autre, avec un grand A. Et c'est toujours assez fabuleux de pouvoir vivre des moments dont on est le co-architecte, quoi. C'est-à-dire que hier, ce qui s'est passé pour moi est lié au fait qu'à un moment donné, j'ai pris la parole il y a plus de 35 ans et que je ne me suis jamais tu. Et même si dans ce parcours-là, il y a des choses qui étaient cachées sous un tapis, derrière un vieux meuble, etc., j'ai toujours parlé dans mon espace de travail. Et en fait, pour moi, c'est ce qui fait la différence, c'est la dimension de dans quelle mesure je prends en compte l'autre quand je veux raconter ce que je veux raconter et quelle place je lui donne. Même si dans ma manière d'écrire, dans ma manière de proposer des choses frontales en musique, ça peut ressembler à une espèce de parpaing de 6 mètres de côté et 55 tonnes, ce que je fais, c'est je fabrique une place pour l'autre, pour que à l'intérieur de ce que je propose, il puisse entendre l'écho avec sa propre histoire. C'est comme si finalement j'avais une espèce de sac de poussière de miroir et qu'en les jetant en l'air, on pouvait un peu voir un petit bout de son propre reflet. Et en fait, la vérité, c'est que je fais semblant de parler de moi, mais je parle de nous, en fait. Et c'est un nous qui pour moi, est polymorphe, qui change à chaque seconde, à chaque minute, et qui se transforme. Et c'est en travaillant sur les masculinités que j'ai eu accès à ces choses-là, en fait, avec des gens super différents, qui venaient d'horizons complètement... qui n'avaient rien à voir. Et moi, j'aime à dire qu'on a, entre nous, depuis des années, on a fabriqué des petits miracles. C'est-à-dire que quand on est deux gars de Bobigny au Aulnay-sous-Bois et qu'on descend en Ariège, qu'on fait, c'est vraiment long, hein, même en train, et qu'on descend, on parcourt le pays pour rencontrer des gars qu'on ne connaissait pas pendant 2 heures pour parler de masculinité, et de voir à quel point on se ressemble, alors que sur le papier, on est censément n'avoir rien à voir les uns avec les autres, là, on gagne parce qu'on fabrique quelque chose qui n'existe pas, quoi. C'est-à-dire qu'on n'était pas censé se rencontrer, on n'était pas censé échanger, on n'était pas censé avoir des affinités, et il y a un endroit où on arrive à se connecter. Et ça a été assez précieux. Et pour vite parler de ces histoires, de ces espaces de masculinité, moi, je pense que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, ces dispositifs-là ne peuvent qu'aller vers l'échec. Mais il faut absolument se confronter à cet échec pour comprendre là où ça coince et pour continuer à avancer, à réfléchir. Voilà. Et aussi, apaisement, parce qu'effectivement, hier, il s'est passé une chose assez fabuleuse. c'est qu'après la performance, il n'y a pas eu d'échange direct avec le public. Et moi, ça fait une dizaine d'années qu'à chaque fois que j'ouvre un espace pour parler de ces questions-là, c'est hyper important pour moi d'échanger avec les gens. Parce que parfois, les gens disent « Oh, le pauvre, il est malheureux » et tout ça. Non, je kiffe ma life, comme on dit. Et en fait, c'est vrai que l'écriture, la littérature, l'endroit où on se retourne vers soi pour laisser une place à l'autre, est un endroit qui peut paraître sombre, mais qui finalement est pour moi un porteur de lumière, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'autre, on existe dans le regard de l'autre et qu'on lui donne un espace dans lequel lui puisse aussi évoluer avec ce jeu de miroir et de réverbération, pour moi, c'est quelque chose de super puissant, super précieux. Et je vais m'arrêter là parce que je suis très bavard. Et voilà, pour compléter la présentation, effectivement, on peut travailler sur les violences d'une manière très, très approfondie, même trop selon les proches, et ne pas voir ce que soi-même on a vécu. Comprendre les mécanismes des psychotraumas et mettre du temps à identifier certaines choses. Et moi, ce qu'essaye de raconter le livre, c'est que si moi, avec mon parcours, la place que j'ai laissée à ma victimation dans ma vie, la façon dont ça prend toute la place depuis une dizaine d'années, si je creuse, si je me suis fait, j'ai suivi différentes formations sur les psychotraumas, si moi, il me faut autant de temps pour mettre toutes les pièces du puzzle sur la table et dire ce que j'ai vécu, c'est ça, alors le système est bien fait pour que des crimes soient jamais, jamais, jamais punis, en fait. C'est-à-dire qu'en travaillant d'arrache-pied sur ces questions-là pendant tant d'années, je suis sorti du cadre légal, je ne peux pas porter plainte, c'est trop tard, je suis trop lent, visiblement. Donc il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et on est beaucoup à le dire. Hein. Et tant qu'on sera à cet endroit-là, voilà, et puis il faut arrêter avec les victimes ont le droit à l'oubli, on n'oublie pas, on passe sa vie à fabriquer des choses à partir de ça.
Merci, Marika Mathieu. L'impuni, donc. Je vous cite à la suite des deux cabales, c'est page 156, Audrey, que vous allez pouvoir nous présenter, puisque vous, forcément, vous la reconnaissez, chez son psy, après en tentant de donner forme à, et de comprendre elle-même ce qu'elle a subi. Vous en dites... la reproduction, non pas du silence, mais du nœud coulissant autour de la parole pour que règne les agresseurs. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'intéressant dans le déni que vous creusez. On a beaucoup parlé de MeToo comme d'une libération de la parole, mais à plein d'endroits, des témoignages, ce dont témoignent vos livres ou celui d'Adèle Yon qui parlait en haut tout à l'heure, c'est à quel point le silence a été dominant. C'est-à-dire ce qu'on commence à mesurer avec des livres comme ça, c'est l'omniprésence, enfin la chape de silence pendant des années, qui passait pour une normalité. Bon, votre livre part de ça, mais détaillez-le-nous un peu, si vous voulez bien.
Alors, déjà, merci de cette invitation. Et effectivement, ces regards croisés, je pense que ça a beaucoup de sens, parce que finalement, c'est ce que j'ai essayé de faire avec mon livre. C'est vrai que c'est à la base ces affaires comme on aimerait les présenter, c'est-à-dire des affaires extraordinaires, des affaires hors normes, des affaires monstrueuses. Donc on s'apprête à vivre le plus grand procès, le plus important procès de pédocriminalité jamais jugé, c'est-à-dire jamais amené en procès en France, par les accusations qui sont portées contre un médecin, un homme, Joël Le Squarnec, aujourd'hui âgé de 74 ans, un homme qui, pendant 30 ans, a pu commettre. Donc, à l'heure actuelle, 299 victimes présumées vont se présenter à ce procès qui commencera le 24 février prochain à Vannes. 299, en tout cas, qui sont passées au-delà de la prescription et au-delà, et qui ont été recensées donc dans les carnets de cet homme. C'est ce qui a permis ce procès. C'est lui-même qui a permis ce procès. Et donc, en fait, finalement, ce procès est-il vraiment la justice, puisque ce qu'il reflète avant tout, c'est comment, pendant toutes ces années, il a été pourtant signalé, des choses circulaient. Je suis de plus en plus en difficulté par rapport au terme silence, parce que je pense qu'il y a beaucoup de mots, il y a beaucoup de paroles, il y a beaucoup de choses qui s'échangent dans l'antre de ces histoires. C'est-à-dire que tout ce qui est intéressant, sans doute, à comprendre aujourd'hui dans les affaires pédocriminelles et dans la violence sexuelle en général, c'est l'origine, c'est comment ça commence, par où ça passe et surtout par qui ça passe. On aimerait se dire qu'il y a un agresseur, un coupable, et cet homme qui ira effectivement devoir répondre de ses actes au moment d'un procès, mais en réalité, il y a tout un entourage, toute une société en amont qui a fonctionné de telle manière que les crimes puissent advenir. Les questions que pose ce procès, c'est comment ça arrive, comment ça commence, comment on fait pour laisser passer, quelles sont les questions qu'on ne pose jamais, quelles sont ces enquêtes, qu'elles soient psychologiques, intérieures ou effectivement judiciaires et collectives, qui n'ont jamais lieu. Et donc, c'est vrai vrai que ce mélange finalement de documentaire et de fiction, c'est finalement d'avoir été poser ces questions qu'on ne pose jamais. C'est, moi j'avais beaucoup aimé dans ton livre, Julia, la question du brouilleur à pourquoi, ou tous ces brouilleurs à pourquoi qui sont au cœur de tout un tas d'institutions médicales, judiciaires, mais familiales aussi, la manière dont on brouille les lignes, dont on brouille les questions et les enquêtes qui n'ont jamais lieu. Et je pense qu'effectivement, on arrive à ces questions du nous, derrière les jeux qu'on propose, derrière les singularités qu'on aime toujours et quand même toujours mettre en avant dans ces affaires-là. Bien sûr que la question profonde, c'est nous. Nous produisons chaque jour une violence officiellement interdite. Comment la produisons-nous ? Ensemble.
Vous avez bien fait de corriger sur silence. J'aurais dû plus précisément parler de silence, de l'organisation collective d'un silence, enfin, c'est ce déni-là, et de cette espèce de surdité. J'en reviens sur Audrey, avant qu'on en vienne à Juliette, parce que, effectivement, ça commence dans cette intimité. C'est aussi pour ça que j'ai sorti cet exemple-là. Audrey, enfin, c'est une de ses nièces. Elle en parle à sa mère, qui entend mais n'entend pas. Enfin, il y a une situation dingue à ce moment-là.
Voilà, dans cette affaire qui, donc, encore une fois, a vocation à nous parler de ces différents cercles qui, tout en ayant l'air séparés, fonctionnent ensemble. Dans ce cercle familial, à l'origine, il y a évidemment la question incestuelle et il y a la question, effectivement, des agressions et des crimes perpétués par un oncle sur ses nièces, en l'occurrence, Audrey étant une des deux nièces de Joël Le Scouarnec. Les faits sont révélés quasi immédiatement, en tout cas, enfin, après 2 ans de... dans lesquels ils ont été perpétrés, effectivement, dans l'incapacité des enfants à dire quoi que ce soit. Mais à un moment donné, Audrey va être celle, la grande sœur, qui pousse sa petite sœur et qui dit, en fait, ce qui t'arrive n'est pas normal, parce qu'elle a parlé, effectivement, des gestes et du fait qu'elle ne voulait plus voir son oncle, que pourtant toute la famille adorait. Et Audrey, c'est quelqu'un qui, en fait, en ayant été elle-même victime et en étant passée par une amnésie traumatique sur ce qui lui était arrivé à elle-même, s'empare de sujets pour tenter de défendre sa sœur et notamment de faire reconnaître à sa famille les crimes qui ont été les agressions en tout cas qui ont été commises. Et c'est là où effectivement elle va se confronter à ce premier mur, ce mur du, là en l'occurrence, non pas du silence, mais du refus de la parole, qui est celui notamment figuré par le grand-père dans cette histoire, qui va dire il n'y a pas mort d'homme. Et à partir du moment où il n'y a pas mort d'homme, ce serait finalement trahir cette famille que d'aller s'exprimer à l'extérieur. Mais ça parle. Toute cette famille en parle, ça parle, il y a des confrontations. La mère d'Audrey va parler à son frère, va lui demander, et il va reconnaître devant elle qu'il a bien agi comme il l'a fait avec ses filles, demander pardon, pleurer, tout ce qu'on veut, et finalement culpabiliser cette parole. Mais c'était pour parler effectivement à la fois des conflits de loyauté qui sont en train... Enfin, comment en tout cas, comment s'explique qu'une parole ne sorte pas d'un cercle ? La parole intrafamiliale ne sort pas du cercle familial dans cette histoire-là, dans les conditions, effectivement, où pourtant les enfants parlent, leur mère les croit, mais elle dit « et pourtant, je ne pouvais pas les défendre ».
Sachant que, et Juliette, j'aimerais qu'on parle de cuicui maintenant à cet endroit-là, parce que j'ai parlé d'une langue tout à l'heure, hein, qui dit que ça bouillonne, qui dit toute l'énergie et qui dit toute la contradiction en plus, puisque l'enfance, c'est un âge de formation, et c'est aussi dans votre texte, c'est-à-dire comprendre déjà ce qu'on a subi, le trauma que ça induit, parvenir à le mesurer, et vous en parlez à un moment de ces degrés-là dans la intelligibilité de ce qu'on est soi-même en mesure d'exprimer, hein, en premier lieu. Donc avant même de pouvoir parler, il faut d'abord parvenir à reconscientiser ce qu'on a enfoui. Et avec Cuicui, on est en tant que lecteur dans cette sorte de mystère-là, mais qui est en fait à l'écoute de sa propre conscience, fuyante par rapport à ça, me semble-t-il.
Oui, en fait, pardon, c'est qu'il y a tellement de choses.
Mais oui, il y a beaucoup à dire.
Mais du coup, pour essayer de à la fois rebondir, mais aussi répondre à ce que vous venez de dire, ça me faisait penser à l'affaire de la Cambre aussi, ce que tu disais. En fait, c'est comment il y a des dynamiques interpersonnelles de déni qui sont. Qui finissent aussi par prendre une dimension sociale et presque comme des mécanismes comme ça qui montent de la famille à la société en général, parce qu'il y en a tellement que ça... Et puis après, ça redescend, c'est-à-dire c'est valable dans les deux sens. Et juste, ça me faisait penser à Lacambre, parce que donc, l'agresseur de Lacambre, je ne sais plus combien il y a eu de victimes, mais...
Ah, le violeur de la Sambre.
De la Sambre.
Sambre, pardon.
De la Sambre, exact, désolé.
On a reçu Alice Giraud, l'autrice du livre, il y a deux ans.
Et du coup, il y a aussi ce phénomène où, dès le début, en fait, c'est su. C'est su par
dans la famille d'ailleurs aussi.
Par la belle-mère, la fille a été agressée en premier, et puis après ça dure des années. Donc initialement aussi, donc la belle-mère de l'agresseur et la mère de cette fille est au courant dès le début, elle sait. Et je fais le lien aussi juste peut-être pour dire moi pourquoi j'ai écrit Cui-Cui, mais parce qu'il y a un lien avec tout ça. C'est que j'étais en train à la base d'écrire un essai qui me prenait la tête et que finalement j'ai achevé, qui sort en octobre, mais qui est aussi sur ces questions-là, qui est de comment, quels sont à la fois les mécanismes liés au trauma qui font, par exemple, la mémoire traumatique, qu'on a du mal en fait à sortir de ce déni, parce que mémoire traumatique, ça peut être un oubli carrément, mais c'est aussi du déni. C'est aussi ne pas vouloir passer par un point qui est trop douloureux, ou qu'on estime inconsciemment trop douloureux, et ne pas vouloir se confronter à des émotions terribles, de rage, de peur, de terreur, de honte. Et donc, comment, quand dans une société, il y a tellement de personnes qui ne veulent plus passer par cet endroit-là, du coup, qu'on ne voit plus, et qu'en plus, comme toute la société ne veut plus passer par cet endroit-là, en plus, produit des discours qui empêchent qu'on passe par là même. Donc, c'est aussi à l'origine de ce livre-là, dans le sens où c'était... Je suis dans cette recherche-là d'essayer de dire comment les psychotraumas et comment les traumatismes agissent sur le déni, la production d'un déni social. D'abord d'un déni personnel de ce qu'on a vécu ou de ce que l'autre vit au déni social. Et donc c'est aussi à la racine de Cui-Cui parce qu'à un moment donné c'était tellement lourd et tellement ça me prenait tellement la tête que je me suis dit ah bah je vais ouvrir une fenêtre. Je vais écrire un peu de fiction. Donc, dans Cui-Cui, je pense qu'on retrouve une sorte de volonté politique, dans le sens où il y a une envie de partager sur ces questions de déni, de le silence organisé et de psychotrauma, d'essayer de faire circuler ces informations. Ça se retrouve dans le livre. Il y a cette volonté aussi qui se retrouve, je pense, de ma part, de vouloir respirer. Donc, en fait, d'aller justement dans la langue qui permet que, en jouant avec la langue, et permet à la fois de supporter, mais aussi des fois de transcender, c'est-à-dire de rire. Il y a de l'humour dans ce livre. Il y a essayé de. Donc, tout d'un coup, il y a ce fil-là qui s'ouvre. Comment, dans la langue, on peut aussi avoir des marges de manœuvre pour vivre, malgré ça. J'imagine que la troisième chose qui a participé aussi à l'écriture de Cui-Cui pour moi initialement, donc avec cette volonté de partager et moi de respirer un peu et d'avoir du plaisir à écrire, c'est aussi toujours apprendre sur moi parce que cette question justement de la mémoire traumatique est donc d'une forme de déni chez moi mais qui est irrépressible, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose que je contrôle. Pour le coup, j'ai eu comme tu disais, des années d'enquête et je me suis sorti d'un certain. Je recompose un peu des pièces de mon histoire et pourtant je ne la connais pas et je ne la connaîtrai peut-être jamais et je ne sais pas si je la. Enfin, donc et je la connais indirectement. Je la connais par ma sœur. Je connais un peu de mon histoire par ma sœur. Et donc aussi dans Cui-Cui, il y a suivre une mémoire corporelle. Qui me permet de savoir certaines choses et de ne pas en savoir d'autres. Et du coup, plusieurs fictions sont possibles aussi à cette mémoire corporelle. Donc il y a aussi ça dans Cui-Cui, il y a le fait que, pour le coup, la part d'autofiction, elle est dans le corps du personnage. Elle n'est absolument pas dans les faits et dans ce qui se passe. Voilà.
Le corps. je me disais que ça devait vous brûler vu ce qu'on a entendu hier soir, forcément.
Alors, je précise que je n'envoie pas les messages, mais que je prends des notes pour ne pas oublier les différents points.
L'empreinte dans le corps, c'est quelque chose qui est aussi au cœur.
Oui, complètement. Et moi, ça fait partie d'un des axes. C'est-à-dire que moi, je le dis dans le livre, vous savez, il y a le docteur Bruce Banner qui devient Hulk, et puis moi, c'est un peu l'inverse. C'est comme si j'avais grandi comme Hulk et j'étais en train d'essayer de me transformer, de revenir en Bruce Banner. Et en fait, je me considère un peu comme l'objet de mon enquête, de ma recherche et de mon expérience. C'est-à-dire que j'en parlais à mes enfants récemment, la façon dont mon corps s'est transformé ces 20 dernières années est complètement hallucinante. C'est-à-dire qu'il y a 15 ans, j'étais vraiment quelqu'un d'autre physiquement. Il y a 20 ans, j'étais encore quelqu'un d'autre et là, je suis encore quelqu'un d'autre. Et c'est vraiment quelque chose qui est vraiment, je trouve ça fascinant, comment le corps se transforme et comment, selon qu'on met l'esprit en avant ou pas, voilà, les choses. Et moi, je dis souvent à des potes ou voilà, bah mec, c'est bien, t'es allé à la salle, mais en fait, ce que t'essaies de cacher, ça se voit de plus en plus, en fait. Donc, à mon avis, en tout cas, vous avez l'air de bien vous entendre, vous tous, mais moi, je vois tout et j'entends tout. Et je dis pas ça pour me moquer, c'est que l'inconfort qui m'habite sur ces choses-là, ce qui est mis en avant, c'est vraiment pour cacher ce qui va pas, et ce qui va pas, on le sait, et c'est pour ça qu'on est là pour en parler. Mais chacun a ses outils. Les gens se drapent dans des formes d'intellectualisme redondant et insupportable, alors qu'ils sont bêtes, et je ne vais citer personne, on n'est pas là pour ça. Mais en fait, c'est ça, c'est que ce soit la bêtise, que ce soit et les addictions, etc., tout ça sont des mécanismes pour essayer de réparer ce qu'on peut identifier comme cassé ou abîmé, quoi. Et c'est là que la mémoire traumatique, c'est particulier. Et le déni, tu disais, c'est qu'on ne veut pas. Et moi, je ne pense pas. Je pense que le déni, on ne sait pas qu'on est dans le déni. On sait qu'il y a des zones de flou. Et moi, quand je confronte ma mère, je l'explique dans le livre, moi, ma mère, je l'ai pardonnée à un moment. Puis je la confronte 7 ans après, elle me dit, mais je t'ai rien fait. Enfin, le déni est trop fort. Personne ne peut vaincre. Déjà, pour vaincre son propre déni, c'est un délire. Mais pour annuler le déni de l'autre, ça n'existe pas, quoi. Donc, tout ça est très compliqué. Je reviens sur ce qu'on se disait aussi sur les questions qu'on se pose et comment on résout tout ça autour du déni collectif. C'est que moi, dans le livre, moi, j'adore les questions. Dans mon travail, j'ai vu qu'une question simple peut renverser une forme d'humanité à l'échelle individuelle, quoi. Moi, pendant des années, j'ai posé à des mecs hétérocis la question de leur propre consentement. On s'en est jamais remis. Jamais, jamais, jamais. On ne peut pas s'en remettre. C'est tout simple, en fait. Et avant, je ne le disais pas en public. Mais c'est bien la preuve que la société a avancé, parce que maintenant, je peux le dire en public. Mais il y a 10 ans, je ne pouvais pas dire ça. Les gens ne comprenaient pas, ce n'était pas le sujet, etc. Et dans le livre, j'ai quelquefois des listes de questions, en fait. Très simples. Parce que le schéma principal de ma honte, c'est pas un témoignage, c'est une analyse de ce que j'ai traversé et une mise en forme de comment on reconstruit une mémoire qui est un petit peu abîmée. Et donc, je pose des questions hyper concrètes, quoi. C'est-à-dire que si moi, je suis un homme et que j'ai mis autant de temps à comprendre que j'avais été agressé sexuellement, c'est qu'il y a un truc qui n'est pas pris en charge par la société elle-même. Et donc, je mets une liste de questions simples. Elles sont simples, mais elles fatiguent. Et une fois que vous posez ces questions-là, vous avez une espèce d'humeur globale de quelle a été votre vie intime, etc. Et j'ai l'impression que c'est ça qui fait que donner la parole et s'exprimer à l'endroit de l'autre permet de dire, ben voilà, moi j'ai compris ça, on peut partager. Et ce que je trouve intéressant dans les trois axes qu'on est en train de déployer là, c'est que tout se tient, en fait. C'est-à-dire qu'une société du silence ne peut pas exister sans déni. Et je reviens sur un truc qui a été dit, parce qu'il faut aussi faire gaffe à nos tics de langage. C'est-à-dire que moi, je suis de la génération où on nous a dit, le slogan, c'était « non, c'est non ». Qu'est-ce qu'ont fait les prédateurs ? Ils ont dit, s'il n'y a pas de non, c'est cool. Et aujourd'hui, on revient, on se dit, moi, j'ai écrit il y a quelque temps, l'absence de non n'est pas un oui. En Espagne, ils disent, seul un oui est un oui. Donc, il faut se méfier des phrases courtes, parce que tout est plus compliqué que ça. Et j'ai l'impression. Et en fait, du coup, donc je reviens sur ce truc de la libération de la parole. On a déjà cité plein d'exemples d'enfants qui ont parlé très tôt. Et ce qu'on dit, c'est que les victimes ont toujours parlé. Donc si on parle dans une pièce qui est immense et vide, ça va résonner. Si on parle dans une pièce qui est petite et calfeutrée, ça ne va pas résonner, le son va être étouffé. Et en fait, c'est ce qu'il y a autour qui fabrique du silence. C'est que les gens parlaient très vite, très tôt, très jeunes. Et en réponse, ils avaient du silence. Et ça, ce sont des choses systémiques qui ont fabriqué du silence. Donc les victimes ont toujours parlé. Et je pense que c'est hyper important. Voilà, je pense qu'au moment de la... Après, je me tais. Au moment de l'affaire de Mazan, il y a une vidéo qui a recirculé sur les réseaux de la première femme à avoir témoigné à visage découvert des viols qu'elle avait subis de son père. Et la société n'avait pas entendu. Je crois que c'était en 1986, si je ne me trompe pas. Et là, on se réveille et on dit... 40 ans plus tard, la parole des victimes... Non, la parole des victimes ne se libère pas, c'est l'écoute qui se libère, et c'est tant mieux. Mais je pense qu'il faut essayer de sortir de notre tic de langage, et c'est en ça que ton ouvrage est important aussi. C'est que la pensée, telle qu'elle est décrite à travers le langage, est aussi une forme de... Et c'est un noir qui le dit, est une forme d'emprisonnement dont il faut aussi sortir, quoi. Je m'arrête là pour le moment.
Tout à fait. Et je vais redonner la parole à Marika sur un point. C'est difficile de savoir dans quel ordre on tire tout ça, parce qu'évidemment, tout est lié, vous l'avez dit. Mais il y a quelque chose de terrible également dans la punie qui est là, dès le prologue. Je précise qu'on a cité Sambre tout à l'heure d'Alice Géraud. Vous avez le même souci éthique de ne pas faire le portrait du monstre, enfin, de ne pas rentrer dans sa tête à lui. Ce qui aussi, c'est une question littéraire, mais aussi de narration. Hein, c'est-à-dire que le portrait du monstre, c'est aussi une figure qui a beaucoup existé dans le polar, etc. Et voilà, travailler sur les figures de la narration, c'est aussi politique à cet endroit-là. C'est une éthique d'enquête, mais c'est aussi de construction. Et dès le prologue, c'est le seul moment où vous, enfin non, vous donnez ces carnets là, ces fameux carnets en source. Mais dans le prologue, ça s'appelle après tout pourquoi pas, puisque il se dit dans son, c'est une audition. Dans ces moments-là, je ne pensais qu'à moi, je me disais, après tout, pourquoi pas ? Et moi, je me dis que ce pourquoi pas, enfin, on voit la conséquence de ce silence, enfin, voilà, de ce silence, de ces, voilà, cette difficulté à parler, et quand la parole est prise, et qu'elle n'est pas entendue dans le cadre familial, puis après, dans le cadre institutionnel, ce que ça permet, c'est que ça permet à un type comme ça, avec sa psychopathologie, et c'est sa question à lui, on va dire, mais d'être encouragé. À continuer, en fait, à continuer, voire à faire plus et sans fin, puisque c'est pathologique, donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête, quoi.
Commencer par là, c'est d'avoir le journal d'un criminel qui se révèle à l'opinion publique par le prisme de crime à cette hauteur, qu'on va encore une fois mettre hors norme. C'est de rappeler que dans ses écrits, il ne raconte que l'ordinaire et la banalité de jours tranquilles. C'est quelqu'un qui dit, après tout, pourquoi pas ? Après tout, pourquoi pas, effectivement, agresser les enfants, quels qu'ils soient, dans le milieu médical ou dans le milieu familial ou dans son milieu social et amical, familial. Et pourquoi, après tout, pourquoi pas, puisque personne ne m'arrête, puisque personne ne m'en parle, ou plutôt personne ne m'en reparle, puisque finalement, tout le monde s'abrite derrière des signes qui vont servir, c'est ce que j'explore, à... pour les uns ou pour les autres, à se dire que ça n'ira pas plus loin, que ça n'est pas si grave, que ça peut, que que l'un dans l'autre, ils vont pouvoir faire avec. Et c'est vraiment, comme tu le dis, c'est-à-dire que, bien sûr qu'il y a d'un côté les logiques de s'exprimer, de parler, comme effectivement on le disait dans cette affaire, il y a des enfants qui ont parlé, il y a même des adultes qui ont plus ou moins essayé de le faire, mais la question d'entendre se pose vraiment dans ce qui nous permet au sein de la culture majoritaire, de la culture dominante, et c'est là où je rejoindrai aussi le travail que tu as produit avec le collectif sur la culture de l'inceste, c'est, encore une fois, d'agripper tous ces fils, toute cette toile dans laquelle est prise la parole. La parole, un récit, raconter ce qu'on a vécu, ce jeu qui va effectivement parler de écoutez-moi sur l'hyperviolence. Je pense que, et même sur la question des monstres, j'ai fait une série pour Netflix. Je pense qu'aujourd'hui on est dans une société abreuvée de monstruosité, abreuvée potentiellement du rôle empathique par rapport à des violences terribles, etc. Mais c'est beaucoup plus difficile de s'adresser à l'ordinaire, à cette infiltration qui n'est pas forcément, en plus, dans les protagonistes principaux. Moi, j'aime bien aussi dans ton livre la figure de Chouette, enfin de Gisèle, qui est celle qui reçoit et qui prend peur et qui rentre elle-même dans... Enfin, voilà, qui a besoin de toute une circulation de sa propre psyché pour accepter d'entendre ce qui se passe chez une enfant, pour arriver à le dire peut-être en faisant des bêtises, peut-être en appelant trop tôt, peut-être en faisant n'importe quoi, peut-être en faisant un nouveau traumatisme. Mais en tout cas, la circulation, la dimension systémique, la dimension qui nous traverse tous socialement. Et celle-là, elle est ordinaire. Et derrière, encore une fois, ce qu'on pourrait appeler la monstruosité, évidemment, et même l'hyperviolence que saisit la pédocriminalité et ces agressions commises dans l'enfance, derrière, il y a une infinie banalité. Celle de celui qui le commet et ceux qui la reçoivent autour. Et encore une fois, la violence est extrêmement partagée parce que cette onde de choc, en fait, elle traverse bien au-delà des victimes directes ou de ceux qui les commettent. C'est encore une fois, nous sommes traversés par cette violence, et c'est une hypothèse aussi, mais c'est de croire que c'est, évidemment, c'est ce que tu disais, c'est là où ça commence. Et en fait, il n'y a pas, moi, violence pédocriminelle, mais violence sexuelle tout court. Le berceau de la domination, il est dans ces agissements et dans le laisser-faire originel là-dessus. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'essaye.
Juliette, comme ça a été évoqué, ce serait bien qu'on en parle effectivement de... Et c'est là où la forme romanesque, elle est intéressante aussi, parce que la prise de parole chaotique, conflictuelle, contradictoire, le malentendu, les scrupules de quelqu'un qui veut bien faire, hein, et qui veut faire au mieux, la difficulté que ça représente, c'est aussi une des péripéties du livre pour le coup. C'est-à-dire que ça devient une aventure en fait. Et à cet endroit-là, la littérature SR aussi. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir une intrigue de polar, etc., avec des gens qui tuent des gens, et quelqu'un qui essaie de faire le bien, et avec toutes les difficultés qu'il y a. Est-ce que vous pouvez nous en reparler un peu de Gisèle et de ce qu'elle entreprend, histoire de se donner du possible aussi. Enfin, c'est quelque chose qui apparaît dans votre livre, ça. On peut quand même essayer, quoi.
Et que c'est pas facile.
Ouais, que c'est vrai, c'est pas facile, et je trouve ça intéressant, ça me faisait réfléchir sur la temporalité, et ce que tu disais aussi sur la temporalité, combien de temps ça prend. Et en l'occurrence, pour un processus, presque là dans le livre, j'avais envie, oui, de créer aussi de l'urgence, et en reprenant aussi d'autres codes, comme tu disais, qui ne sont pas autour d'un crime avec des policiers, quelqu'un qui l'a commis, enfin voilà, d'autres codifications, mais où en fait il y a un crime. Et du coup, il y a une urgence et il y a un suspense qui se crée socialement et dans les liens autrement. Et qui est peut-être d'ailleurs un suspense plus positif, parce qu'en l'occurrence, c'est quelque chose dont s'empare cette professeure. Et malgré qu'elle s'en empare, avec ce qui est, comme on le disait, pas toujours le cas, et elle s'en empare de tout son cœur, quelque part, et malgré ça, ça prend plein de détours, et ça prend plein de temps, et c'est pas forcément toujours satisfaisant et parfait. Mais elle fait partie de ces personnes justement qui ne seront pas dans le déni. Et alors ça, c'est pas pour le coup, c'est vrai que statistiquement, c'est pas forcément vrai. Mais quoique, je pense qu'il y a beaucoup de professeurs et de professeurs qui sont impliqués là-dedans. Et j'avais envie d'essayer de refléter ce parcours psychologique-là qui est toujours difficile, parce que pour l'avoir traversé moi-même, par exemple, en accueillant des enfants en tant que thérapeute. Ce que j'ai arrêté de faire en libéral, parce que c'est un peu trop complexe, au regard de l'autorité parentale, plein de choses. Mais aussi, j'accompagne des personnes en thérapie qui traversent ce processus-là en tant que professeur ou en tant qu'accompagnante d'enfants, quoi. Et bien sûr, il faut faire un signalement. Sauf qu'en général, la situation, elle ne se pose jamais de manière aussi claire. Elle suspecte des faits. Et en fait, comme elle a tellement peur que ce qu'elle suspecte, ce soit vrai, du coup, il y a une temporalité qui s'installe. Et on pourrait presque dire que le simple fait qu'elle le suspecte, en fait, elle devrait déjà savoir que c'est vrai. Elle regimbe, quoi. Son esprit n'a pas envie de passer par là. Et de se confronter à toutes les émotions attenantes et à sa responsabilité, du coup, qui va lui échoir et qui est une responsabilité de vie ou de mort. Donc, évidemment, on n'a pas tout de suite envie de se dire, tiens, c'est super cool, au lieu de finir à 17h, aujourd'hui, je vais faire ça. Elle en parle avec son mari ou son compagnon, je ne sais plus si son mari ou pas dans le livre, mais elle en parle avec sa psy, elle en parle beaucoup avec elle-même, ça l'agite. Et comme tu disais, elle fait aussi certains gestes brusques, mais elle ne laisse pas tomber. Et pour moi, c'était important d'avoir ce personnage qui est aussi très, en fait, finalement positif, très positif et très humain dans ses difficultés et dans ses accros. À un moment donné, effectivement, elle prononce le mot inceste et ça choque complètement l'enfant. Elle fout en stratosphère. En même temps, c'est jamais dit si c'était bien ou pas bien, mais elle s'en empare, elle y va, quoi.
Moi, je fais beaucoup de rencontres avec des lycéens, des collégiens sur la question-là. En plus des autres, enfin voilà, je fais beaucoup de rencontres. Ça me passionne parce que il y a quelque chose de l'ordre de. Alors même si vous n'avez pas la parole aujourd'hui, le fait que vous soyez là indique que vous êtes intéressé par le sujet. Mais il y a quelque chose où nous, en tant que acteurs et actrices de terrain, on a besoin de se pincer en fait. On sait que le sujet est important pour vous. On sait que le sujet est important pour les gens et la société nous dit l'inverse. Les gens n'ont pas envie de parler de ça, ils ont envie de se détendre, ils ont envie de regarder Hanouna, tout ça, mais c'est plus compliqué que ça. Et en fait, dans le, moi, ce que je disais récemment à des jeunes gens à partir de mon histoire, c'est que moi, il y a 2 ans, je me suis mis en tête, je me suis dit, voilà, dans l'année, j'appelle tous les adultes qui ont été ressources pour moi quand j'étais enfant, au moment où j'ai subi ce que j'ai subi. Ceux qui ont dit quelque chose, mais qui ont dit juste, si t'as un problème, tu viens à la maison. Alors, c'est simple, il y avait un seul coup de fil à passer. Mais pour moi, c'était hyper important d'appeler cette tante et lui dire que ça a été super précieux pour moi. Et je dis ça par rapport à ce truc qu'ont les adultes, très vite. Quels sont les mots que je vais mettre en place? Qu'est-ce que je vais dire? Mais je vais tout casser, etc. Et ce qu'on dit aussi avec Sorna Fall, une thérapeute victimologue avec qui je travaille beaucoup, les enfants, ils se souviennent de ça. Parce que ce que fait une victime pendant une grosse partie de sa vie, c'est de reconstituer le puzzle. Et dans ce puzzle-là, les îlots de gens bienveillants qui ont compté, qui ont dit des paroles importantes, apaisantes, ça devient super précieux. Et donc, en fait, c'est ce qu'on essaie de faire, nous, dans cette forme de sensibilisation tous azimuts, de dire, si vous avez un soupçon, quelque chose déjà, faites-vous confiance et surtout posez des mots sur cette chose-là, parce que l'enfant, quand il va grandir, ça va peser pour lui, c'est super important. Et pour rapidement vous raconter une anecdote, donc moi, mes enfants à moi, j'en ai 4, je suis grand-père. C'est beaucoup plus simple qu'être parent. Parenthèse. Et en fait, mes enfants ont grandi avec ça. C'est que très tôt, avant même que les masculinités soient au centre de mon travail professionnel, moi, j'ai toujours parlé de ce que j'ai vécu. D'ailleurs, mon fils aîné qui a 26 ans m'a dit, il n'y a pas longtemps, « Ouais, 9 ans, c'était un peu tôt pour moi, mais en vérité, quelque part, je te remercie. J'ai compris le monde dans lequel je grandissais. » Et en fait, un jour, mon fils aîné, qui devait avoir 14-15 ans, il rentre de l'école avec son petit frère, qui a 10 ans de moins, et il dit, bon, vas-y, raconte à papa. Et mon fils, le petit dernier, devait avoir 6 ans, il me dit, à l'école, il y a une copine qui m'a dit qu'elle faisait l'amour avec son frère. On fait, ok, j'en parle à sa mère, qui en parle à l'école, et le lendemain, il y a un signalement qui est fait, et l'enfant est sorti de la famille, etc. Nous, on ne sait pas où est-ce que l'enfant va aller. On ne sait pas si ça va être mieux pour elle, on a entendu parler de ce qui se passe dans les foyers, on ne sait pas, en fait. On a juste fait ce qu'on pensait juste. Je ne dis pas qu'on avait raison, mais on a fait ce qu'il fallait faire, en fait. Et ce qui a été le plus saisissant dans cette histoire-là, c'est que la directrice m'a dit qu'après enquête, ça faisait 2 ans que la gamine racontait ça à tous les enfants qu'elle croisait, et aucun enfant n'a jamais rien dit à un adulte. En tous les cas, c'est jamais remonté jusqu'à d'autres adultes, et c'est ça qui est terrifiant, en fait. C'est-à-dire que c'est encore l'exemple de les enfants y parlent, etc. Et un dernier exemple, une de mes filles, donc, qui est maman, parce que je parlais vendredi avec des lycéens qui je disais, si vous aviez les lois dans les mains, quelles lois vous metteriez en place pour que tout ça soit mieux traité? Et puis ils disaient, mais on ne pourra jamais arrêter ça. Et je dis, effectivement, on ne pourra jamais arrêter ça. Par contre, on peut prendre mieux en charge et faire en sorte que ça recommence le moins souvent possible. Et je leur donnais cet exemple que je vous citais. Donc ma fille me dit, j'ai demandé l'autorisation de la raconter en public, elle m'a dit oui. Ma fille, le consentement, c'est important, à tous les étages. Ma fille me dit, mon petit garçon qui a 3 ans m'a dit cet après-midi au dortoir, un petit garçon m'a tiré sur le zizi. Donc relou. Donc au sein de la famille, il n'y a pas de, c'est une agression sexuelle, c'est hyper clair. Donc elle lui pose des questions, est-ce que tu en as parlé à l'adulte? Oui, il a parlé à un adulte. Est-ce qu'il a parlé après à la maîtresse? Oui, il a tout fait. Et il a eu cette phrase géniale, parce qu'après elle lui a dit, tu t'es senti comment? Est-ce que tu étais d'accord? Est-ce que tu as dit quelque chose? Non, j'étais pas d'accord. Et je lui ai dit tout de suite, enfin là, waouh, ça marche, on transmet. Et puis à un moment, le petit garçon, il dit. Il me dit, ma fille lui dit, je ne sais pas si tu vas comprendre la question, mais est-ce que tu penses que tu étais consentant? Il dit, en effet, je n'avais pas dit consentement. Enfin, lui, dans ce qu'on lui a appris, il croit qu'il faut dire consentement. Et, que, voilà. Et je trouve ça super mignon. Donc, ce n'est pas parfait, mais il a 3 ans et demi. Donc, et c'est ça pour répondre à ta question. Moi, je pense sincèrement, que ce truc-là peut être réduit de 80% en une génération qui fait le taf. Si tout le monde fait le boulot, parce que c'est partout. On n'est pas en train d'essayer de montrer des trucs à des gens qui n'existent pas. Les gens le savent. Les gens qui sont ici ne sont pas ici par hasard. Les gens le savent. C'est partout. Et finalement, moi, j'avais écrit un texte qui, pour l'instant, c'est trop tôt pour la société, où nous, on disait que être victime, c'est une partie tellement puissante chez nous que ça fait partie de notre propre identité. Et quelque part, l'identité de victime est l'identité la plus répandue sur la Terre. Donc, il y a un endroit où... si on ouvre les portes et si on ouvre les oreilles, on va comprendre ces choses-là. Et donc, je suis assez optimiste, finalement, parce que, heureusement, sinon, je ne sais pas ce que je ferais. Et en fait, j'ai vraiment l'impression que ça peut bouger. Ça peut bouger parce qu'on n'a pas besoin des politiques, on n'a pas besoin des dominants, on doit absolument faire sans eux, parce que c'est ça dont il s'agit, en fait. Il s'agit de mettre à mal les mécanismes de domination. Et donc, il faut parler. Comme je disais tout à l'heure, moi, j'invite tous les gens à tous les repas de famille de mettre le sujet sur la table, quoi.
On a tous espéré que nos livres seraient publiés juste avant les fêtes de fin d'année, pour effectivement agrémenter un peu ces moments souvent fades. Et je trouve que ce qui est formidable quand on en parle comme ça, c'est de revenir. Bon, c'est mon truc hein, sur les histoires de déni, mais tout le monde le sait. On aime bien dire que dans telle ou telle affaire, tout le monde le sait. Mais je veux dire, c'est un savoir ancestral. La question de la perpétuation des violences sexuelles dans l'enfance, les chiffres tels qu'on peut. Voilà, je vais faire la journaliste. Les 160 000 enfants par an. On estime qu'un tiers des Français sont socialisés au contact de la violence sexuelle dans l'enfance, qu'il y a une reproduction donc qui ferait que 6 millions de Français vivent avec un passé d'atteinte ou d'agression ou de viol avant leurs 18 ans. On est dans des millions. Et donc l'entourage, s'il y a 5,6 millions de Français qui ont été agressés avant leurs 18 ans, ça fait combien dans leur entourage? Ça fait combien de signalements? Combien de manières qui auraient pu changer, c'est vrai, la tournure? Ce savoir-là, qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Comment on fait pour, mais justement, en faire aussi émerger les trajectoires et les possibles joyeux? Enfin, je veux dire, il y a des choses à faire avec ce savoir en commun qui est aussi le fruit de là où on peut aller puiser pour ces déconstructions masculines, pour ces déconstructions de genre, pour la manière de se réinventer aussi. Se réinventer en tant que société sans violence sexuelle dans l'enfance, ce serait quand même, c'est jouissif, c'est merveilleux, non mais il y a de quoi en rêver et il y a de quoi aller le chercher. Moi je crois qu'effectivement, il y a des dispositifs qui doivent passer parce que c'est ça l'effet social, c'est l'effet aussi de levier que peuvent avoir des véritables moyens dans les préventions, dans les manières effectivement, évidemment dans la formation, dans la judiciarisation. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas attendre de la justice de venir régler ça. Ça viendra effectivement de nous en tant que collectif politisé à ces questions. Et là aussi, j'en reviens à ce qui est super intéressant dans la question du droit des mineurs, de la question du droit des enfants, tout simplement de la protection de l'enfance. On en parlait aussi. Bien sûr qu'il y a des mécanismes légaux qui doivent passer par effectivement un retournement de valeur. Alors oui, alors combien de temps ça prend? Combien de temps ça prendra pour que on se dise pas les enfances brisées, voilà tout ce que ça implique? Non, mais je veux dire ce qu'on se disait en arrivant. Est-ce que c'est bizarre d'arriver en souriant et en étant en joie de parler de ça, en se disant qu'en fait tout ce qu'on veut, c'est essayer d'ouvrir des possibilités de voir et de penser autrement ce que nous savons tous et toutes. Je pense que personne n'apprend au final qu'il y a ça. Mais après, c'est vrai que moi je l'entends encore tous les jours. Oh là là, non, c'est trop dur. J'ai pas envie de m'occuper de ça. J'ai pas envie de regarder ça. Mais bon, c'est aussi comme ça que ça arrive et c'est comme ça que ça continue. C'est en tout cas d'aller chercher ce pas d'après, le pas qui nous fait voir l'avenir aussi autrement.
Merci, Juliette. Quelque chose à ajouter. J'avais pas forcément une question prête pour. Je peux reprendre le fil. Non mais ce que je veux dire, c'est qu'on arrive bientôt au bout du temps. Je peux reprendre un plan détaillé. Je me dis, ça discute entre vous, c'est chouette quoi. Il y aura bientôt dans 5 minutes les 5 minutes restantes pour une question du public.
Peut-être pour rebondir ce que vous avez dit, Marie-Cadet. Parce que dans l'espoir et les perspectives, effectivement, pour moi, c'est une sorte de recoupement entre des nouveaux des discours qui font qu'on, même si on a envie de se cacher derrière son petit doigt, on a de plus en plus de mal à le faire parce que il y a quelqu'un qu'on va voir, il y a forcément une émission, une parution, et en ce moment, c'est porteur d'espoir ce qui se passe. Vraiment, c'est de plus en plus dur de ne pas croiser le mot inceste ou pédocriminalité dans un sens non exceptionnel, mais présent en chaque foyer. Donc, il y a du matériel qui se crée. Par exemple, je pense au livre de Meylan aussi pour la prévention des violences pédocriminelles, où elle travaille avec le ministère de l'Éducation en ce moment. Enfin, je veux dire, il y a des choses qui se passent. Donc, et j'imagine une sorte de carrefour entre ce travail du discours qui vient percuter une envie de déni individuel et social. Et le travail qu'on fait nous-mêmes, et peut-être c'est pour moi le deuxième point, c'est que la frontière, là je reprends parce que tu parlais d'un frère et d'une sœur. En fait, moi c'est très 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 courant en cabinet, les personnes qui ont été incestées et qui incestent leur jeune frère, sœur, cousin, cousine. Pour moi, ça, il faut aussi lever ce tabou-là, c'est pas encore assez fait. Et lever cette, pour moi, cette, ça revient aussi à lever la monstruosité, mais également cette espèce de frontière entre victime et bourreau, parce qu'en fait, pour moi, c'est toujours plus complexe que ça. C'est bien sûr avoir été victime d'actes, mais c'est aussi la potentialité d'en être l'auteur ou l'autrice. Et donc, pour moi, démonstrualiser, c'est très important, mais aussi dans ce sens-là, parce que ça permettrait la libération aussi de la parole. Enfin, moi, c'est des suivis quotidiens, donc c'est 20 heures par semaine. Et c'est toujours, toujours les mêmes histoires, c'est-à-dire des histoires familiales qui partent depuis plusieurs générations et où une personne est rentrée dans un déni soit de ce qu'elle a vécu, soit de ce qu'elle a vu, qui potentiellement va s'emboîter avec quelqu'un d'autre qui agresse, mais elle ne le voit pas et les enfants sont dedans. Enfin, je veux dire, c'est toujours des sortes d'emboîtements relationnels. Et donc, pour moi, c'est aussi l'articulation avec notre travail, quoi. Notre travail à chacun chacune qu'on peut faire en thérapie et ou en lisant des livres et ou donc en vraiment en s'intéressant moi où j'en suis dans la question par exemple du déni où j'en suis dans l'évitement de certaines choses où j'en suis dans mes liens aux autres et des fois ça prend pas forcément des formes agressives pas forcément pas que des formes agressives ça prend des formes de ne pas voir. Donc il y a vraiment, je crois, un travail de chacun chacune qui vient à cet endroit-là. Et encore une fois, pour moi, il y a cet endroit important à lever sur, chez les adolescentes, des personnes qui ont été auteurs et autrices d'agressions sexuelles. Pour qui elles aussi puissent parler, parce que la question de la responsabilité n'est pas la même aussi que chez un adulte, parce que bien sûr que c'est aussi une question de temps, de formation psychologique, de parcours, et donc de lever aussi des formes de honte, parce que ça crée du déni et des tabous dans les familles. C'est vraiment... C'est très, très compliqué. La personne est prise dans une conflictualité entre sa honte de parler, la peur d'être complètement rejetée par les autres, et en même temps, du coup, ça laisse plein des personnes qui ont subi ces agressions sexuelles dans l'ombre de leur histoire, parfois même dans l'ignorance traumatique de leur mémoire. Donc pardon, je fais un petit focus sur ce point plus précis, parce que c'est aussi quelque chose qui n'est pas encore tout à fait découvert dévoilé, dont les personnes du coup ont du mal à parler et je dirais encore pire en termes de tabou pour les personnes qui en tant qu'adultes ont commis des agressions sexuelles. C'est très dur malheureusement de pouvoir les entendre. Entendre et écouter ça, dans le sens de comprendre, ça veut pas dire enlever la responsabilité, ça veut pas dire enlever des mécanismes de justice ou de justesse sociale, ça veut dire pouvoir comprendre. Et il y a quelque chose sinon qu'on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre par exemple des mécanismes, ça n'enlève aucune responsabilité, mais essayer de comprendre des mécanismes d'addiction par exemple dedans, si on les comprend pas, il y a quelque chose qu'on ne pourra pas régler. Donc il faut réussir peut-être encore à entendre ces paroles aussi là.
J'ai envie de t'inviter à lire ma honte, mais ce serait abusé. Mais en fait, non, c'est hyper intéressant parce que on peut pas, je peux pas résumer tout en quelques phrases magiques. Mais moi, un des axes importants du travail que j'ai fait dans le livre, c'était ma trajectoire. C'est-à-dire que le défi qui nous attend, nous ici, nous, c'est les hommes hétéros, en fait. C'est-à-dire que on parle des 5-6 millions de victimes. Mais moi, ce que je dis dans le livre, c'est que moi, je n'étais pas équipé. Pour identifier les violences sexuelles que j'ai subies parce qu'elles ont été, faites par des femmes. Il n'y a rien qui m'indique comment appréhender ces choses-là comme autre chose que quelque chose de bien, en fait. Et en fait, on parle de 5-6 millions, mais quand les garçons vont apprendre à lire que des choses potentielles qu'ils ont vécues ne sont pas si simples que ça, là, les chiffres vont drastiquement changer. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va être obligé de se regarder dans le rétro. C'est-à-dire que moi, le point de vue du livre, c'est de dire si moi, j'ai traversé une partie de ma vie en étant autant abîmé, il est difficile d'imaginer que je n'ai abîmé personne sur mon passage. Donc, j'ai fait mon examen de conscience. Je pense que je suis dans le droit, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, moi, dans mes comportements, comment, en étant autant blessé, enfin, moi, j'aime bien les images un peu fortes, elle n'est pas dans le livre, mais voilà, si j'ai une entaille et que je saigne, je vais en mettre partout, en fait. Et ça, c'est un travail qui est très difficile, parce que c'est accepter de se confronter, non pas à sa monstruosité, mais à la personne qu'on a été avant-hier, hier, demain, ce soir, il y a 20 ans, il y a 15 ans. Et ça, c'est le travail qui nous attend, nous, les hommes hétéros, parce que le déni global sur la question des agressions sexuelles subies par les petits garçons, c'est un... Là, on a vraiment quelque chose à déterrer, parce que ça va nous permettre, justement, non pas de justifier, mais de comprendre. Comprendre comment on a été fabriqué. Moi, je me suis considéré pendant longtemps comme quelqu'un d'hypersexuel. Et le livre, je l'ai fait pour raconter cette hypersexualisation qui a été la mienne, et d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, et de dire, bah, voilà comment... Moi, en tant qu'être hypersexuel, j'ai été fabriqué, ça a commencé à 6 ans, en fait. Et ça, c'est hyper important pour apprendre à lire ces trajectoires, comprendre ce qui est en action, et modifier ce qui doit être modifié, et comprendre, et recomposer le puzzle, et se dire, bon, ben voilà, j'ai été ça, je suis ça, je sais... Et ça, ça demande un truc très simple, de l'empathie et de l'honnêteté. Je dis que c'est très simple, mais non, c'est très compliqué. Parce qu'en fait, il faut réussir à se regarder dans le miroir et dire, ben là, ça coince, là, ça cloche. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas faire ça si on n'a pas suffisamment d'amour propre. C'est-à-dire qu'il faut s'aimer soi pour creuser à l'intérieur et regarder ce qui est moche, quoi. Donc, on a un peu de travail.
Merci. On aurait peut-être 4 minutes pour une question du public, qui n'est pas une obligation, mais je tenais à vous laisser l'espace de parole, sachant qu'il y a une séance de dédicace aussi ensuite, si vous voulez rencontrer chacune des auteurs individuellement, mais peut-être quelqu'un a-t-il une question en collectif ou à l'un ou l'une des auteurs-autrices ? Ouais. On n'est pas obligé, hein, c'est juste pour... moi, je ne vais pas en relancer une de plus, parce que cet échange est déjà quand même assez riche, et que ce serait... Voilà, ça aurait beaucoup de suite. Juste redire aussi, on a parlé de la joie, et même si elle est moins importante par rapport à la société... Le fait que vous ayez fabriqué des objets littéraires fait aussi partie de cette joie, hein, de différentes façons. Autant que voilà, de la nécessité de rendre audible, en fait. C'est des manifestations d'utilité aussi, mais également de joie et de vivant. Et pas simplement de témoignages traumatiques. Je redis ça pour boucler ma boucle un peu éditorialement par rapport à Effraction, et absolument pas pour diminuer l'importance de ce qui est dit, mais à mon sens, tout ça est également lié. Je vous remercie donc tous les trois, et on va devoir finir là, mais rien n'est terminé par ailleurs. La dédicace continue. Merci beaucoup de votre attention,
merci.
Et puis merci beaucoup de votre parole généreuse et attentive aux unes et aux autres. Ah oui, alors, c'est la rencontre suivante, c'est avec Juliette Rousseau et une chercheuse. Voilà.
La prochaine rencontre a lieu au niveau espace rencontre, niveau 2 de la bibliothèque. C'est une rencontre entre Juliette Rousseau et Yael Anselem-Mangui.